Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mardi 7 mars. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, un ciel qui demeure un peu couvert ce matin, nuageux, moins 4 degrés. Et ça va bouger un tout petit peu, là. On parle de moins 2 degrés comme maximum, avec quelques flocons de neige. Quelques flocons, là, ça veut dire moins de 1 cm, surtout ce matin et tôt en après-midi. En soirée, ça demeure couvert, température stable près de moins 3. Et puis demain, mercredi, c'est du temps nuageux, on est au-dessus de zéro, c'est-à-dire 4 degrés. Jeudi, nuageux, plus 4. Et pour vendredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec un maximum prévu de 2 degrés. Monsieur Trudeau, hier, a créé un certain niveau d'attente quand il a convoqué les médias à 17h30 pour faire le point sur l'ingérence étrangère au Canada. Et on parle évidemment de la Chine. Alors, on sait que la GRC a ouvert une enquête sur les fuites comme telle pour savoir qui a donné de l'info au Globe and Mail, c'est arrivé dans quel contexte. Et ce sont des dossiers, on le sait, là, top secret du Service canadien de renseignement et de sécurité. Et le Globe and Mail avait dit, entre autres, que la Chine avait déployé beaucoup d'efforts pour faire élire M. Trudeau et qu'on avait tenté d'influencer le résultat de l'élection fédérale. Il y a eu une enquête menée par un proche de M. Trudeau, qui est l'ancien président de la fondation qui porte le nom de son père, puis qui a dit oui, il y a eu de l'ingérence, mais finalement, ça n'a pas eu d'effet. Je vais vous dire que c'est pas reçu partout comme ça au Canada de la même façon. Il y a entre autres Jean-Pierre Kingsley, qui est l'ancien patron des élections fédérales, qui a dit la moindre ingérence, la moindre tentative doit faire l'objet d'une enquête quand même poussée. Et M. Trudeau nous a annoncé quoi hier? La création d'un poste de rapporteur spécial indépendant qui a le mandat d'aller chercher de l'info et de dire à M. Trudeau si oui ou non il devrait faire une enquête publique. En d'autres termes, ce que fait Justin Trudeau, il gagne du temps. Il ne décide pas, repousse ça à plus loin, met ça dans la cour d'un éminent Canadien qui sera nommé. D'ailleurs, il a dit hier que ce sera quelqu'un de très crédible d'un océan à l'autre, puis ça va être fantastique. Et ça fait en sorte que le débat maintenant vient un peu de s'atténuer, la chaleur baisse, parce que M. Trudeau a développé cette approche. Et même si le NPD qui permet à M. Trudeau de gouverner trouve que ça prend une enquête publique, que c'est la seule façon de faire la lumière, là, il faut voir que c'est compliqué tout ça, là. Qu'est-ce qui peut être rendu public vraiment? Qu'est-ce que des parlementaires peuvent découvrir en ayant accès à des documents, en posant des questions? Qu'est-ce qu'ils peuvent partager? Parce qu'on est dans l'information quand même secrète. Alors, donc, il y a des enquêtes sur les ingérences de la Chine durant les élections fédérales et aussi à travers d'autres moments. Et puis, ça arrive aussi alors qu'en Chine, vous avez cette grande messe du Parti communiste chinois qui a lieu une fois par année. Et le ministre des Affaires étrangères qui parle d'un conflit potentiel avec les Américains, qui parle d'une espèce de main invisible qui serait derrière la guerre en Ukraine et qu'il est important de tisser des liens avec Moscou devant ces stratagèmes honteux des Américains. Donc, c'est sûr qu'on est dans un discours, il y a une rhétorique là, qui se passe actuellement et que il fallait, dit le ministre, que Washington modifie son approche. Sinon, les relations avec la Chine vont demeurer extrêmement tendues. Puis avec le Canada, ben, vous pouvez ajouter également, si vous voulez, le Canada donc dans le décor, si on veut, de l'Amérique du Nord face à la Chine, puis la Chine qui considère que... Puis ils ont beaucoup de difficultés à comprendre un peu comment ça marche au Canada. Tu sais, ils disent à Justin Trudeau, vous devriez dire aux médias de se taire, puis de pas parler, puis de pas aborder la question. Ça marche peut-être en Chine, mais ici, c'est un peu différent. Alors, voilà pour le dossier chinois et le dossier de M. Trudeau. Maintenant, Radio-Canada nous dit que, et on l'avait entendu depuis déjà un petit bout de temps, là, que le gouvernement fédéral s'apprête à régulariser les sans-papiers au Canada. On parle d'environ 1,5 million de gens qui pourraient obtenir leur résidence permanente. Des gens qui sont en attente, qui ont multiplié des requêtes, et on sait que les procédures sont longues. Alors, ce serait, dit Radio-Canada, un programme d'une ampleur historique sans précédent. On pense qu'on sera en mesure de l'annoncer d'ici l'été. Et c'est donc vraiment aller rapidement pour régulariser le statut de beaucoup de citoyens. Alors, on ne sait pas exactement quelles seront les modalités, mais on étudie donc une façon de faire, une voie rapide pour que ces gens qui sont pour la plupart implantés ici depuis longtemps, mais qui peuvent travailler en dessous de la table parce qu'ils n'ont pas de statut, parce que c'est compliqué. Donc, il n'y a pas d'autres détails, mais il semble qu'on est capable probablement d'arriver à quelque chose de concret. Puis entre-temps, parce qu'on parle beaucoup du chemin Roxham, je voyais hier ce reportage dans le Globe and Mail où vous avez des gens qui témoignent, puis des Haïtiens qui ont quitté le pays, qui, vous le savez, est secoué par la violence, des gangs, par la corruption, par donc des incendies, climat social extrêmement tendu. Beaucoup d'Haïtiens qui veulent quitter et qui finissent par naviguer, passent par le Mexique, se retrouvent, par exemple, tout près de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et ceux qui témoignent, c'est intéressant, disent, c'est pas vrai qu'on a fait tout ce parcours pour rien. Un. Deux, on a connu des épreuves, la faim, les nuits difficiles, la violence dans certains cas, parce que ce ne sont pas des beaux convois humanitaires où tout le monde s'apprécie, là. On se vole, on se pique du stock. Et ils arrivent donc en disant, et là je parle d'Haïtiens, on connaît des gens au Québec, à Montréal, puis on connaît aussi, on a de la famille en Floride. Et on va où? Et eux se disent que l'accueil du Canada, le message qu'ils entendent, qui est perçu, c'est un accueil chaleureux. Or, on le voit depuis quelque temps, et ça inclut l'Ontario, disons que l'accueil du chemin Roxham, c'est moins, positif qu'avant. Et beaucoup de voix se font entendre pour qu'on ferme le chemin et qu'on passe par les autres postes frontaliers et donc par les procédures normales. Et Joe Biden, le président Biden, qui a toujours été celui qui a dit « je ferai pas comme Trump, là, puis séparer les parents des enfants quand ils arrivent à la frontière », lui aussi est avec un joyeux problème. Le Nord, ça ne l'achale pas tellement, là, c'est mineur pour lui, mais ce qui se passe au Sud, c'est évidemment considérable. Et ils sont en train de revoir la possibilité de détenir des familles qui entrent illégalement aux États-Unis. Donc, la même politique que Donald Trump, à quelques virgules près. Il n'y a pas de décision finale, mais on s'attend maintenant à ce que on puisse faire en sorte que ces gens-là soient donc détenus, qu'il y ait des méthodes pour qu'on puisse les suivre, pour savoir quand ils sont aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font exactement, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va regarder la situation à la SAC, Société d'assurance automobile du Québec. D'abord, ça demeure un bordel. C'est mieux que c'était, on va se le dire, parce que j'ai eu beaucoup de courriels de gens. Quelqu'un qui m'a dit, avec les infos de base, j'ai pu faire en ligne la transaction que je voulais faire. Tant mieux. Mais l'affluence demeure élevée. Et je rappelle que la SAC vise la fin avril pour retrouver une situation normale. Et les difficultés sont pas toujours apparentes. Hier, quelqu'un me disait, j'ai fait une transaction. J'ai payé renouvellement du permis ou des plaques, là. La transaction a été passée dans mon compte. Donc, l'argent a été prélevé. Mais de toute évidence, la mise à jour a pas été faite. Puis ça, c'est vrai là, pour beaucoup de transactions de décembre, janvier, jusqu'à l'activation de la nouvelle application du nouveau système. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et le déploiement des employés supplémentaires va se faire la semaine prochaine pour vrai. Le syndicat est sorti hier en disant que les employés n'avaient pas eu la formation nécessaire, qu'on avait précipité l'entrée en service du nouveau système, puis qu'on avait foncé dans le mur. Puis ça, on leur avait dit, puis on le savait. Tu sais, des fois, on peut casser du sucre sur le dos d'un syndicat, mais entre vous et moi, là, de dépenser 500 millions pour changer un système informatique, pour faire tout le transfert des données, on parle de milliards de données, je cite la Société d'assurance automobile, et de penser que du jour au lendemain, la totalité des Québécois qui avaient l'habitude de se présenter dans une succursale ou chez un mandataire vont soudainement tous se mettre en mode moderne avec l'application qui, en passant, connaissait aussi des ratés. Alors, disons que de ne pas avoir prévu ça, de ne pas avoir anticipé des difficultés et de s'être fait convaincre par je ne sais pas trop qui que c'était pour être comme du beurre dans la poêle, c'est pas Phoenix, mais c'est pas là, l'opération glorieuse sans anicroche. Et là, tu es obligé de rappeler du monde, de faire du temps supplémentaire, d'avoir un système d'accueil qui a de l'allure, puis d'être capable de servir les gens. Et ça, je pense qu'on n'ait pas prévu ça, qu'on l'ait échappé à ce point. Là, c'est pas là une tornade qui passe. C'est une opération planifiée. Et on savait tous que ce genre de changement, ben, ça se fait pas aussi clairement que sur papier, là, puis que ça a des effets, puis on est en train de le mesurer. Quant à la ministre Geneviève Guilbeault, qui dimanche tapait du pied en disant là, il faut que ça arrête, je fais un clin d'œil ce matin, parce que tu sais, des fois, tu fais des trucs puis tu le calcules pas. Mais on sait qu'elle fait un voyage officiel, Suède, et là, ce matin, à la une de la presse, pendant que, disons, ça va mal à la Société d'assurance auto, elle prend une marche dans le métro de Paris. Je comprends pourquoi, là, c'est à planifier. Mais c'est sûr, là, que la perception des gens, on sait bien, elle est en vacances. Elle n'est pas en vacances. Mais, tu sais, c'était peut-être pas nécessaire ou elle n'est peut-être pas super ravie que ça se retrouve ce matin dans la presse. Et puis, j'ajouterais l'affaire des lampadaires ou des luminaires, pour être plus précis. Journal de Montréal qui nous dit ce matin, c'est 25 % des luminaires des autoroutes. Quand vous roulez à Montréal puis vous dites il fait noir ici et il fait noir depuis longtemps, vous avez parfaitement raison. Alors, 25 % des lampadaires, là, c'est nettement plus que ce qui est normalement, disons, acceptable. Normalement, là, quand tu as 15 % des lampadaires puis des luminaires qui fonctionnent pas, il me semble que c'est déjà beaucoup, là, disons que c'est passable. Mais là, on nous explique que, par exemple, au mois, puis Marc en a parlé souvent, là, de l'échangeur Anjou, pendant un mois, 122 luminaires répartis sur une cinquantaine de lampadaires qui ne fonctionnaient pas. Puis il faisait noir comme chez le loup. Fait que c'est pas, disons, très sécuritaire rouler dans des conditions comme ça. Et là, le ministère, ça c'est extraordinaire, là, blâme la neige, le froid et le verglas, parce que ça rend la vie compliquée aux équipements. C'est comme si l'hiver venait de se manifester au Québec. Là, je sais pas s'il y a eu trop de neige, il y a eu du temps doux. Coudon, est-ce qu'on a affaire à des nids de poules comme luminaires, tu sais, qui évoluent au gré? C'est pas acceptable, puis c'est pas une réponse à donner. On va dire une chose, Mme Guilbeault, là, elle n'a ça d'épais sur son bureau, parce que le ministère des Transports aurait intérêt à se ressaisir, là. Puis je pourrais vous parler des rapports de coroner sur des parcours ou des aménagements routiers qui demeure difficile. Maintenant, il y a un organisme qui propose de tarifier tout le stationnement sur rue à Montréal d'ici 2035. Je vous entends hurler, mais ça, faut que vous le sachiez, là. C'est une espèce d'épouvantail qu'on sort une fois de temps en temps avec des taxes partout, puis les places dans les centres commerciaux, puis taxer jusqu'à Donnacona pour... non, je fais des blagues, là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on met des mesures un peu extrême, puis là, ça pique. Puis là, la ville arrive en arrière et dit « Non, on le fera pas finalement, ils n'ont pas l'intention de faire ça. » Donc, on pourrait aller chercher, dit-on, pour la ville de Montréal, 500 millions par année en traitant tous ces cas de stationnement sur rue. C'est le Conseil régional de l'environnement de Montréal dans un livre blanc sur l'occupation du domaine public qui va être rendu public aujourd'hui, mais qui est partout là, ce matin dans l'ensemble des médias, et qui parle de la culture du changement. Alors, c'est mieux gérer l'espace. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que chaque espace de stationnement sur la rue, peu importe le quartier, peu importe l'endroit, devrait être tarifié. Et également, donc, la mise en place pour les vignettes de stationnement sur les rues réservées aux résidents pour prioriser certains ménages en fonction de l'absence d'accès à un stationnement hors rue. Et même, tenez-vous bien, là, pour les nouveaux arrivants dans le quartier, une liste d'attente. Tu vas mettre ton char où? Une pompée de question. Et la ville de Montréal dit qu'à court terme, ils n'ont pas l'intention de procéder avec de la tarification partout, puis les taxes au déplacement. Mais c'est clair qu'ils veulent et ils cherchent un moyen de pousser les gens vers le transport en commun, puis l'abandon de la voiture. Puis je sais que beaucoup d'entre vous vont réagir, parce qu'on a tous des raisons là qui sont correctes pour le travail, d'avoir besoin d'un véhicule, puis d'avoir un véhicule pour des courses, puis bon, etc. Mais en même temps, il y a une congestion routière qui est quand même importante, on le sait, puis il y a une offre de transport en commun qui a besoin d'être nourrie. Fin des bagarres au hockey, on va en reparler tantôt avec Alain également. Et aussi, je vais vous parler de cette nouvelle dans Le Devoir ce matin. C'est Marie-Ève Cousineau qui fait un peu le point sur des recherches concernant les gens qui souffrent de diabète de type 2. Et il y a donc des travaux qui se font à McGill, qui se font à l'Institut de cardiologie, et qui laissent sous-entendre qu'une rémission est peut-être possible pour certains de ces patients. Donc, des gens qui ont taux de sucre très élevé, qui doivent prendre une médication ou encore de l'insuline. Et selon les recherches jusqu'à maintenant, il semble que ça peut même, pour certains patients, pas pour tout le monde, constituer un objectif thérapeutique. Donc, de renverser la maladie chez des gens qui ont le diabète de type 2 depuis moins de 6 ans, qui ont un problème de poids, qui ne prennent pas d'insuline, et en perdant 15 kilos, ça pourrait les aider ultimement à vivre et à se débarrasser des médicaments. Je dis bien ultimement. Mais ça veut dire tout un changement de mode de vie. C'est un changement également en termes, par exemple, de la bouffe, le fameux régime méditerranéen. Alors, est-ce que c'est possible? De plus en plus de chercheurs, disent que oui. Ils n'écartent pas automatiquement l'idée comme avant. Donc, dans Le Devoir, vous pourrez lire ça ce matin. Puis je vais terminer avec une histoire concernant un élève de 15 ans qui a été poignardé devant son école à Longueuil. Peu de choses, il y a un suspect qui a été arrêté. On me dit que ce serait un ado d'une autre école. Et il y a des membres de la famille de cet ado de 15 ans qui m'ont écrit. Puis je voudrais partager avec vous ce message, parce que quand arrive comme ça un drame, ça va vite. Puis on l'a vu dans le cas, par exemple, de ce chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie à Laval. Toutes sortes de rumeurs circulent. Quand on dit que le jeune de 15 ans est hors de danger, ça ne traduit pas l'ampleur des dommages qu'il a subis, des blessures qu'il a et des séquelles qu'il va garder pour le reste de sa vie. Le jeune a été opéré, il y a plusieurs spécialistes, chirurgiens, des médecins qui sont intervenus. Et il est hors de danger dans le sens qu'il ne va pas mourir, mais c'est pas un événement banal. C'est pas une égratignure là, qu'il a subi. Et ce que ça fait, c'est que sur les réseaux sociaux, les témoignages, ben c'est pas grave, il y a rien là. Oui, c'est grave, et il y a quelque chose là. Parce que le jeune va demeurer malheureusement, me dit-on, avec des séquelles de ça. Fait que c'est toujours important de se rappeler que derrière un titre, une manchette, un fait divers, il y a quand même des humains puis des familles là, qui naviguent à travers tout ça.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On vous parlait hier matin de l'annulation du spectacle Décembre, qui est organisé, présenté depuis 20 ans à la Place des Arts par Québecissime. Donc, le mandat, si vous voulez, n'a pas été renouvelé. Ils sont furieux, plusieurs voix se font entendre. Vous avez entendu l'ex-maire de Québec, Régis Labombe, dire que c'était négliger les régions, qu'il était en beau fusil. Là, je suis poli quand je reprends son expression ce matin. Et avec nous, la présidente directrice générale de la Place des Arts, Marie-Josée Desrochers. Madame Desrochers, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, expliquez-nous un peu pourquoi vous avez décidé de ne pas renouveler l'entente avec Québeximes.
Oui, ça a été un choix très difficile qui n'a pas été pris à la légère, je vous dirais. Faut comprendre qu'à titre de plus grand centre des arts au Québec, on est sollicité chaque année par des producteurs pour qu'ils nous proposent des spectacles pour nos 6 salles. Alors, il est arrivé une proposition. Et nous, on doit être ouvert à toutes ces propositions-là. Donc, c'est notre devoir de l'être. Et il est arrivé une demande d'un producteur très important qui nous a proposé une production, un projet très intéressant qui met de l'avant la culture québécoise. J'ai beaucoup lu et entendu ce qui s'est dit dans les derniers temps, beaucoup de spéculations, mais cette production-là, cette nouvelle production-là, mettra de l'avant de manière très affirmée la culture québécoise.
OK, mais juste que je comprenne là, dans un peu la chronologie, là, ce nouveau producteur avec cette nouvelle idée faisant en sorte que décembre devait partir.
Oui, en fait, c'est notre je vous dirais, c'est notre métier. On travaille à peu près année après année avec 150 producteurs qui présentent 900 spectacles pour à peu près 1 million de spectateurs dans les 6 salles. Donc, nous, on reçoit ces demandes-là et malheureusement, on doit parfois faire des choix qui sont peut-être plus faciles. On peut pas accéder à toutes les demandes, pardon, mais parfois, on doit faire des choix difficiles, comme ça a été le cas en ce moment.
OK. C'est un partenariat de 20 ans avec Québec ici.
Oui.
Là, je vais vous poser des questions très précises, puis j'espère des réponses très précises. Est-ce que Québec ici est en perte de vitesse? Est-ce que vous avez dit que c'est moins populaire qu'avant? Puis là, je tiens compte aussi qu'il y a eu la pandémie qui est un facteur à ne pas négliger. Là. Mais est-ce que dans votre décision, vous avez dit que ça pogne moins qu'avant?
Bien, c'est certain que quand on prend ce genre de décision-là, on jongle avec un ensemble de facteurs. Alors oui, il y avait la nouvelle proposition qui, à notre sens, renouvelait vraiment l'offre de programmation et qui va attirer, nous l'espérons, nous le croyons sincèrement, un vaste public. Mais effectivement, il y avait un ensemble de facteurs de l'autre côté. Puis je voudrais pas entrer ce matin là dans des chiffres. Est-ce qu'on sentait un certain essoufflement, comme vous le dites, indépendamment de la pandémie? Oui, c'est une relation de 20 ans qu'on a eue avec M. Doré, pour pas le mentionner, où on a soutenu ce producteur-là. Mais là, on est arrivé à la croisée des chemins où on a dû faire un choix et ça n'a pas été facile de le faire. Malheureusement, on pouvait pas accommoder les deux producteurs, donc on l'a fait.
Ça, je comprends. Mais ce qu'il nous a dit hier, entre autres, c'est que, bon, il y a eu la pandémie, il a dû investir environ 500 000, qu'avoir su que l'entente n'était pas renouvelée, il n'aurait pas mis cet argent-là. Il n'y avait pas moyen de faire les choses plus correctement compte tenu de l'entente qui existait depuis 20 ans.
Bien, permettez-moi de revenir justement sur cette chronologie-là. Premièrement, il n'a jamais fait partie d'aucune discussion cet investissement-là. On n'en avait pas entendu parler lorsque M. Doré a réservé nos salles. Alors ça, c'est la première des choses et chaque producteur, effectivement, prend ses propres risques lorsqu'il présente un spectacle. L'autre chose, est-ce qu'on aurait pu donner un plus long préavis à M. Doré? Si ça avait été possible, nous l'aurions fait. On est allé avec la manière la plus diligente possible, donc c'est pour ça qu'on a rencontré M. Doré à la mi-décembre. Mais peut-être, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a un an à peine, on ouvrait les spectacles, les salles à nouveau. On a été 2 ans en pandémie où on a géré vraiment le quotidien à soutenir un écosystème pour faire en sorte que les spectacles continuent, diriger vraiment l'inconnu. Et 2022 a été une année qui s'est passée à un rythme effréné dans le contexte que pas différent des autres industries, de pénurie de main-d'œuvre où il y a un essoufflement.
Est-ce que c'est
on est allé le plus rapidement possible.
Est-ce que c'est vrai que vous, quelqu'un de votre équipe a dit, ça fait des années qu'on aurait dû faire ça?
Ah, ça c'est pas venu à mes
oreilles.
Vous
flochez, comme on dit.
C'est pas venu à mes oreilles. Quand on prend ce genre de décision-là, on le prend pas à la légère. On prend ça de façon très poser. Des fois, c'est très facile d'accommoder. C'est un casse-tête, là, notre quotidien, c'est-à-dire entre, ça peut même paraître plus complexe là, que ça en a l'air, en fait. Alors, cet arrimage entre la demande des producteurs puis la disponibilité de nos salles, là, ça, c'est vraiment notre métier. Nous, on travaille avec tous les producteurs, puis il n'y a pas eu cette idée de dire on aurait dû faire ça il y a longtemps. Ce qu'on prend, on prend une décision au moment où on la prend, avec le contexte d'aujourd'hui.
Mais si on résume ce que vous nous dites, là, c'est qu'un producteur qui est arrivé avec un projet et que vous êtes dit décembre est peut-être en essoufflement, en perte de vitesse, et on va parier que ce projet-là va être plus rentable ou en tout cas va générer plus d'intérêt.
Nous, on le fait dans une perspective de développement public aussi. Okay. Alors oui, il y a une question de, on va dire, de santé financière, mais c'est pas la seule variable. Okay. Il y a aussi le public qu'on prend en considération. Puis des cas comme celui qu'on discute ce matin sont quand même des cas d'exception, je dirais.
C'est un cas d'exception, mais il y a quand même des raisons. C'est-à-dire que on parle de culture québécoise, on parle d'une production qui vient d'une région. On parle d'une production qui est là depuis 20 ans. Là, vous me dites, on a un producteur qui va présenter un produit québécois, là, ce que je comprends. Mais je vous demande pas de me dévoiler le nom et le spectacle, mais vous comprenez que les gens là, se disent, OK, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place de décembre? Quel genre de production?
Oui, je le comprends. Puis nous, dans la façon dont on travaille, on a dans notre mission de présenter une offre diversifiée au public, d'une part, et de faire la promotion de la culture québécoise. Et je peux vous assurer qu'avec la nouvelle production qui va être annoncée d'ici la fin avril, c'est pas à moi de le faire, d'ailleurs, c'est au producteur, ça va célébrer la culture québécoise et ça va attirer un vaste public.
Est-ce que ça va célébrer les régions?
En fait, j'ai envie de vous dire que nous, on travaille avec tout un écosystème des arts vivants au Québec. Il y a des artistes qui viennent de partout au Québec à la Place des Arts et on n'a pas...
Mais là, vous répondez pas à ma question. Je vous parle pour ce spectacle-là. Est-ce que les régions seront mises de l'avant?
Moi, ce que je vous dis, Monsieur Arcand, c'est qu'on travaille avec un ensemble de producteurs, un ensemble d'artistes, et que si on parle ici de culture québécoise, je peux vous dire que ça va vraiment, les gens, il n'y a pas, ça va être non équivoque que ça célèbre la culture québécoise. Ça, c'est certain.
Pouvez-vous me dire la forme? C'est une comédie musicale, c'est un spectacle à grand déploiement, c'est...
Malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Est-ce que c'est un spectacle à grand déploiement? Si on est ici ce matin, je pense qu'on peut dire que oui, c'est un spectacle à grand déploiement. Si on n'a pas été capable de maintenir les deux productions, c'est parce que c'est un spectacle à grand déploiement. Et est-ce que ça va célébrer la culture québécoise? Absolument. Puis je pense que quand vous aurez l'annonce devant vous, vous serez sans équivoque à ce propos-là. Mais je pense que c'est important que les gens, oui, on célèbre la Place des Arts, oui, on célèbre la culture dans son ensemble, et on a des spectacles très variés, mais on a des gens, des artistes au Québec qui viennent de partout dans les régions. Et ça, je pense qu'il faut le célébrer. Alors, il n'y a pas de quelle région il vient et tout, il y a une seule grande région, non, c'est le Québec. Et en ce moment, je peux vous dire que ça va faire un spectacle qui va...
Parce qu'on est dans, vous me parlez d'écosystème, là, on est dans un débat où on veut développer des outils pour faire la promotion et la protection du français. On veut mettre en relief ce qui se fait dans les régions du Québec. Montréal est peut-être plus à risque que d'autres régions pour ce qui est de la protection du français. La Place des Arts, ça appartient au public et la Place des Arts est un outil justement pour mettre en valeur le français. Puis là, on se dit, il y a une production québécoise qui visiblement a eu du succès pendant au moins 20 ans jusqu'à la pandémie, qui met tout ça très en évidence puis qui se fait dire c'est fini. On va juste chercher à comprendre. J'ai de la misère à croire que vous n'avez pas vu venir la tempête.
Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont dites indépendamment du spectacle, effectivement, depuis les derniers jours, puis sans savoir avec quoi on arriverait. Alors, dans notre mission de la Place des Arts, oui, il y a cette offre diversifiée, je reviens, mais il y a l'idée de faire la promotion de cette culture québécoise-là. Et c'est notre quotidien. Et parfois, ça nous amène, c'est notre métier, à faire des choix difficiles, comme on le fait. Et on le fait en regardant vers l'avenir, puis en célébrant, même si la relation avec Québec-CIM est terminée pour ce cas-ci, en tout cas momentanément, ben nous, on a pris des décisions qui continuent d'être en relation avec toute la culture québécoise et oui, avec...
Mais ça veut dire que vous êtes consciente que, compte tenu de l'ampleur du spectacle, de la production, ils peuvent pas se retrouver dans n'importe quelle salle si c'est pas chez vous?
Ben, Monsieur Doré est un producteur. Alors, Monsieur Doré présente d'autres spectacles. Il en présentait un, d'ailleurs, en décembre dernier, là, de Janis Joplin à Lady Gaga. Donc, dans un plus petit espace, c'est son métier. Donc, c'est son métier. Je sais que j'ai entendu que le Grand Théâtre n'avait pas de disponibilité pour lui, mais c'est son métier. Il présente d'autres spectacles dans d'autres salles à Montréal et ailleurs au Québec. Alors, ça fait partie du pain quotidien de tous les producteurs. Puis nous, on a un ensemble de salles qu'on met à la disposition du plus grand nombre de producteurs possible et des artistes de partout. Et donc, c'est aussi notre quotidien d'arrimer l'offre.
J'allais vous dire à la blague, Casse-Noisette, c'est-tu encore aussi populaire pour que ça revienne comme ça chaque année?
Casse-Noisette, c'est vraiment un cas d'exception. C'est un classique des classiques. C'est pas un phénomène québécois. C'est un phénomène, je dirais, nord-américain et mondial. Casse-Noisette. Il n'y en a pas d'autres Casse-Noisette. Puis c'est 50 000 billets par année, mais un record de vente en décembre dernier. Donc ça dépasse, là, c'est vraiment un phénomène mondial.
Vous rendez compte que vous venez de mettre la barre haute parce que il y a une affection visiblement parce que ça a fonctionné pendant 20 ans. Puis là, vous dites, OK, il y a un nouveau producteur, il y a un nouveau produit québécois qui va être à la hauteur des attentes. La balle est dans votre camp, là.
La balle est dans notre camp et je vous rappelle ce que je vous ai dit au début. Ça a été un choix difficile. On a jonglé avec plusieurs éléments. Et oui, on est arrivé à la conclusion que pour le public, c'était pour être une belle offre qui était pour renouveler, une offre de programmation qui était pour attirer un vaste public. Oui, la barre est haute. Place des Arts, la barre est haute. Et puis oui, on espère que ça va plaire à un vaste public.
Ouais. La seule chose que je vous dirais en terminant, je comprends que vous avez fait le maximum peut-être pour le délai, mais quelqu'un qui, après la pandémie, doit, disons, rafraîchir puis mettre 500 000 sur la table, moi, j'aurais été en maudit, là. Je me dis, ça fait 20 ans que je suis là, puis je mets 1 demi-million, puis je me fais dire, fini.
Oui, mais ce chiffre-là est sorti dernièrement. Nous, on n'a eu aucune discussion à cet égard-là.
Mais vous l'avez dit, j'imagine, au moment où vous avez annoncé que c'était terminé?
Ben, c'est pas le chiffre qui a avancé, là. Le chiffre a changé.
C'était combien?
Donc, c'est des discussions privées. Mais peu importe, c'est que quand il a loué la salle, ça n'a fait partie d'aucune discussion. Et ça aurait pu en faire partie, absolument. Mais ça n'a fait partie d'aucune discussion. Mais alors, je suis un peu étonnée aujourd'hui là, d'entendre ça.
Je veux juste comprendre. Si vous l'aviez su, qu'est-ce que ça aurait changé?
Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire qu'est-ce que ça aurait changé. Mais la discussion aurait peut-être été différente. Donc, il y aurait eu une discussion. Parce que nous, on est en relation, au-delà là, des 150 producteurs, on est en relation de manière constante avec certains qui sont plus près de nous. Là, vous pouvez vous imaginer. Alors, on est en relation constante.
Mais si
constante.
Vous l'aviez su, ça aurait pu changer quelque chose.
Je peux pas vous dire ça, on est dans la spéculation. Mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que ce chiffre-là, cette chose-là, cette discussion-là n'a jamais eu lieu.
OK. Merci d'être venu ce matin.
Ben, merci à vous.
Marie-Josée Desrochers est la présidente directrice générale de la Place des Arts. Ben, c'est le cauchemar, c'est le casse-tête, c'est le bordel. Appelez ça comme vous voulez à la Société d'assurance automobile du Québec. Et je vais être honnête, ce matin, beaucoup de témoignages dans les différents courriels de gens qui ont réussi, je dirais, à faire une transaction par l'application. Mais dans les faits, les problèmes persistent, notamment de file d'attente, de délai pour les rendez-vous. Est-ce que toute l'information, je pense entre autres au paiement, là, puis prenons un cas très clair, là, les gens qui ont fait une transaction, que l'argent est passé dans leur compte, par exemple pour un permis de conduire ou pour l'immatriculation, est-ce que c'est indiqué au dossier ou s'il faut se promener avec une preuve de transaction si jamais, par malheur, la police nous intercepte? Bon, ce matin, il y a une opération relations publiques, on va appeler ça comme ça, là, la ministre Geneviève Guilbeault, qui est en Europe, qui revient d'urgence pour gérer la crise. Faut dire, avec un clin d'œil, que c'est sûr que quand c'est le bordel comme ça, puis que vous voyez la une de la presse, puis qu'elle fait une tournée du métro de Paris, c'est pas très, très stratégique. Alors, quoi qu'il en soit, elle devance son retour, tout ça pour gérer la crise, comme on dit, et aussi parce que on commence à être impatient à Québec, il y a des engagements qui ont été pris, qu'on n'a pas encore vraiment senti sur le terrain des changements. Christian Daigle est le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Monsieur Daigle, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, je veux vous entendre là sur le côté prévisible du chaos. Vous dites, en gros, là, que ce qu'on vit actuellement, on avait quand même de bonnes indications que ça allait se produire.
Ben effectivement, là, les gens qui sont sur le terrain, les membres que je représente, l'avaient dit qu'on n'était pas prêt à mettre ça en place. J'ai vu par les reportages hier que des spécialistes en informatique avaient tiré une sonnette d'alarme en disant c'est trop tôt, il manque de rodage. Donc, il y a plusieurs témoignages, mais ils ont décidé d'y aller quand même. Et ce qui me surprend surtout, c'est qu'ils ont regardé les plans des derniers mois, ils ont dit peut-être qu'on n'est pas prêt, mais on va le lancer pareil. On va le lancer pendant les semaines de relâche à Montréal et à Québec. Puis, en plus de ça, on n'a pas de plan B, pas de plan C s'il y a des problématiques qui surviennent. Pour ça, là, en tout cas, c'est de l'improvisation complète. Je ne sais pas si on a juste voulu répondre à une commande politique ou quoi, mais la SAAQ a manqué complètement la cible à ce niveau-là.
OK, mais là, je veux que vous soyez un peu plus précis dans ce que vous me dites, là. D'abord, quand vous me dites « ils étaient pas prêts », comment vous savez ça? Qui vous a dit ça? Et sur quelle base, là, on peut dire qu'ils étaient pas prêts à faire l'opération?
Ben, les membres que je représente me disaient au gestionnaire, au directeur, il manquait un peu d'informations, il manquait de formation. On n'a pas fait de rodage de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a rapporté. On n'a pas fait de rodage sur le système non plus. Pourquoi changer le système au complet aussi vite que ça, plutôt que de prendre le temps et d'y aller peut-être étape par étape, d'y aller avec des opérations? Pourquoi est-ce que le ministère de la cybersécurité n'a pas fait de publicité plus, je dirais, agressive, dans le bon sens du terme, pour dire aux gens, allez créer votre identité numérique? On n'a jamais entendu parler de ça. Moi-même, le premier, que ça prenait 4 pièces d'identité, dont le numéro de l'avis de cotisation pour s'inscrire en ligne, parce qu'on allait en avoir de besoin dans nos transactions avec la SAQ de votre ministère. C'est toutes des informations qu'il nous manquait, qu'on n'avait pas, puis que les gens sur le terrain l'indiquaient également aussi qu'il manquait des éléments là. Parce que les problèmes informatiques que nous avons présentement, c'est pas juste les citoyens qui les vivent. Les membres que je représente au comptoir ont des problèmes avec l'informatique également aussi. Alors, c'est un manque de planification et de préparation flagrant.
OK. Je veux comprendre également que par rapport aux opérations normales, il n'y avait pas de plan de contingence. Ce que je veux dire par là, ils n'ont pas embauché 50 ou 100 personnes de plus en 10 ans. C'est pas tout le monde qui va passer au numérique d'un coup. Les Québécois ne vont pas se transformer, puis les bureaux vont être pleins, il va y avoir des files d'attente. Il n'y avait rien de ça qui existait.
Vous avez tout à fait raison. Il n'y avait absolument rien de ça qui existait. Là. On était déjà en manque d'effectifs. Au niveau de la fonction publique, dans les différents ministères organismes, on manque d'effectifs à cause des conditions de travail. Je n'embarquerai pas sur ce sujet-là, mais on manquait d'effectifs. Et on arrive avec une planification où ce qu'on fait, on met ça en place. Il y a des gens qui sont en formation pour faire leur formation sur le sujet, alors que les autres sont en succursale, sont dans les centres de services et pas plus d'effectifs que d'habitude. La semaine passée, c'était la semaine de relâche à Montréal. Il y a des gens qui avaient planifié leurs vacances depuis un an. Nous, il faut les déclarer un an d'avance, nos vacances. Donc, c'était la semaine de relâche à Montréal, moins d'effectifs. Cette semaine, c'est Québec. J'ai un centre de service sur le boulevard Amel à Québec. Ils sont supposés être 10 normalement. Ils sont 4 présentement. Puis là, on arrive avec 150 personnes de plus. Puis on va dégarnir d'autres services de la SAAQ. On va devoir former ces personnes-là. Et après, on va les envoyer sur le terrain. Ils sont pas sur le terrain immédiatement.
Mais là, on nous a dit qu'à partir de lundi prochain, il y aurait plus de monde sur le terrain dans les succursales. C'est vrai, ça?
Effectivement, il va en avoir plus parce que les gens vont avoir eu cette formation-là. On va les déployer au fur et à mesure qu'on va les trouver. Je suis pas sûr que du jour au lendemain, on a trouvé 150 personnes pour y aller. Puis l'autre chose, les gens qui vont être déployés en succursale, de ce que j'ai compris de la SAQ, parce qu'on n'a pas eu de communication directe avec eux, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aider les gens à se faire un profil, leur identité numérique, ils vont être là pour aider l'identité numérique. Mais ça réglera pas les problèmes au comptoir qu'on a présentement. Ça ne réglera pas les difficultés informatiques qu'on vit présentement au comptoir.
OK, je vais vous poser une question. Des gens qui m'écrivent du centre du Québec qui font affaire avec une entreprise qui fait affaire avec la société. Et quand ils ont un problème technique, quand une transaction ne fonctionne pas, le temps d'attente pour parler à quelqu'un, c'est minimum 2 heures. Puis parfois, ça peut être même 3 heures, 3h30. Puis même, on raccroche. Autrement dit, on n'est pas capable d'avoir l'information. Possible?
C'est possible, effectivement, avec tous les bugs informatiques qu'on a présentement. J'imagine que les ressources sont mises à essayer de régulariser certaines situations pour que les centres de services puissent fonctionner adéquatement, ce qui n'est pas le cas. Puis à ce moment-là, on a des difficultés, j'imagine, avec le MCN aussi, parce que M. Kerr et son ministère pour l'identité numérique sont un peu à la source aussi de tous ces problèmes de transactionnels-là, j'imagine, ou de d'identification.
OK, mais ce que je vous décris, là, savez-vous quoi? Ça existait avant qu'on implante le nouveau système. Ce que je veux dire par là, là, est-ce que c'est pas aussi une accumulation, appelons ça, d'un service à la clientèle pourri?
Ah ben, c'est monsieur Arcand, je veux dire, ça fait 4 années de suite qu'on déplore qu'il manque au-dessus de 1000 techniciens en informatique au gouvernement du Québec. Là, à chaque année, je ressors la même cassette. Alors, cette année, c'est pas nouveau. Puis là, on se rend compte présentement que le manque d'effectifs qu'on a dans certains domaines, comme l'informatique, est criant. Puis c'est là qu'on s'en rend compte qu'on les manque d'effectifs. On les a pas, ces gens-là. Puis on en aurait besoin présentement pour ce surcroît de travail-là. Il nous manque 1000 techniciens en informatique juste pour faire l'entretien normal du réseau. Quand on arrive en période de crise comme nous avons présentement, là, ben c'est sûr que ces manques-là sont encore plus flagrants et viennent au grand jour.
Moi, on m'a raconté, je sais pas si c'est vrai, là, que On a pris de vos membres, donc des employés, pour leur donner une formation pour préparer ce transit-là. Et que pendant ce temps-là, ils n'étaient pas remplacés. Fait que ça faisait que,
ben oui,
finalement, on avait encore moins de services qu'avant.
Ben oui, c'est tout à fait vrai. On manque d'effectifs un peu partout, là. Fait que les gens qu'on prend pour envoyer en formation ne sont pas remplacés dans ce temps-là. Les 150 personnes qu'on va envoyer à partir de la semaine prochaine, qu'on va déployer à partir de la semaine prochaine, ils ont été pris dans d'autres départements, là. Il y a personne qui est embauché présentement par la SAAQ. Peut-être quelques retraités qui vont revenir au travail si ça a le temps de venir se faire engueuler par les citoyens et citoyennes. Mais mis à part ça, je veux dire, c'est des gens qu'on prend d'ailleurs. Leur travail ne se fera pas pendant ce temps-là ailleurs. On n'a pas de surplus. On est en manque d'effectifs dans les ministères. C'est ce que je déplorais à la dernière négociation. C'est ce qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui.
Okay. Le retour à la normale à fin avril, y croyez-vous?
Je l'espère. Je l'espère sincèrement, mais je trouve ça trop long. Hey, c'est 4 semaines d'attente. 8 semaines d'attente, je veux dire, c'est 4 semaines par mois, là, quand les gens vont attendre encore plus pour des transactions qui devraient être faites aujourd'hui. C'est complètement aberrant d'attendre 8 semaines pour pouvoir régler un dossier. J'entendais des gens prendre un rendez-vous pour le mois de mai.
Ouais.
Voyons donc qu'on trouve des solutions à ça, qu'on devance, qu'on fasse du délestage. Voyons, ça n'a pas d'allure.
Merci, M. Daigle. Christian Daigle est le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. On a parlé à plusieurs reprises avec la Société d'assurance auto, là, et on va essayer un jour de parler avec la ministre Geneviève Guilbeault. Mais peu importe du bord de la clôture où on se trouve, là, il y a une réalité. C'est que ça marche pas à 100%. Puis c'est pas juste, là, une petite période d'ajustement. On parle de semaines et de semaines et de semaines de délai pour obtenir des rendez-vous. Puis oui, tant mieux si vous êtes capable de faire votre transaction par l'application, mais il y a bien des gens qui sont peut-être pas capables, qui ont besoin d'aller en succursale. Il y a des rendez-vous, puis il y a des rendez-vous en succursale qui sont inévitables, que tu es obligé d'y aller de toute façon. Et malheureusement, on a mis en place un système, on le fait migrer sans aucun filet de sécurité. Puis là, ça a fait boum. Et on se retrouve avec les problèmes comme ce qu'on voit depuis maintenant, les dernières semaines.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. On a souvent parlé de ces cas d'individus reconnus coupables ou qui plaidaient coupables d'agression sexuelle. Et avec les changements de loi au fédéral, on se retrouve avec soit des demandes et même, dans certains cas, des condamnations de peine à purger à la maison, comme on dit, là, en collectivité. Et on se souvient du cas de Jonathan Gravel. Je n'irai pas dans les détails scabreux, mais donc coupable d'avoir agressé une femme, donc d'avoir eu des rapports sexuels sans son consentement. Semble-t-il que c'était extrêmement violent. Et donc, le juge l'a condamné, David Simon, à purger sa peine dans la collectivité. On a appris hier que le DPCP, donc la Direction des poursuites criminelles et pénales, n'ira pas en appel de la décision. Maître Audrey Roy-Cloutier du DPCP est avec nous. Maître Roy-Cloutier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Pourquoi il n'y a pas d'appel?
En fait, vous savez, on a 30 jours là, suivant la décision pour analyser, la décision pour décider si on va porter le tout en appel. Donc, c'est ce qui a été fait au cours des dernières semaines. On a fait une analyse rigoureuse des motifs de la décision du juge Simon auquel vous avez fait référence en introduction. Et aller en appel, c'est pas de dire, ben je suis pas en accord avec la décision, donc je porte le tout en appel. Il faut vraiment avoir soulevé ou identifié des erreurs de droit ou faire la démonstration que la peine est manifestement non indiquée. Alors, c'est vraiment différent d'un désaccord parce que manifestement, dans ce dossier-ci, notre prétention, la peine que se méritait M. Gravel, selon nous, c'était une peine de 15 mois de détention ferme. Alors, nous ne sommes pas en accord nécessairement avec la décision, mais à l'issue de notre analyse, on a déterminé que il n'y avait pas d'erreur de droit et que cette peine-là, malgré tout, n'était pas manifestement non indiquée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas porter la décision en appel. Et c'est ce qu'on a confirmé hier.
OK. J'ai pas besoin de vous le rappeler, mais votre collègue, Maître Dinelle, avait déclaré que Justin Trudeau, que le ministre David Lametti, vont avoir des comptes à rendre aux victimes d'agressions sexuelles. C'est assez rare là, qu'un procureur fasse une sortie comme celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de sentiment que des crimes graves de nature sexuelle, compte tenu des changements de la loi au fédéral, sont punis moins sévèrement, ou en tout cas, il y a des possibilités que la sentence soit beaucoup moins sévère?
Alors, quand j'ai entendu mon collègue, effectivement, se sortir de la salle de cour, ce que j'ai entendu, c'est un procureur qui était dévoué, engagé. Hein. On n'exerce pas notre rôle d'une façon désincarnée. On a à cœur les intérêts des personnes victimes et tout ça. Alors, c'est à l'issue d'un dossier qui, on se souvient, là, duré bon sur plusieurs années. Alors, c'était un dossier là, quand même avec un cheminement là particulier. Mais les représentations qu'on va pouvoir faire, nous, comme poursuivants, parce qu'évidemment, bon, vous le savez, là, il y a un débat là, politique, je vous dirais, c'est dans la sphère politique actuellement avec la motion de l'Assemblée nationale et tout ça quant à ce changement législatif-là. Mais nous, comme procureurs, au-delà de nos opinions, au-delà de ce qu'on peut penser, notre rôle, c'est vraiment d'appliquer la loi telle qu'elle est. Donc, le cadre légal qui est en vigueur, qui est adopté par les parlementaires. Alors, depuis novembre 2022, effectivement, avec l'entrée en vigueur du projet de loi C5, l'emprisonnement à la collectivité, c'est maintenant une possibilité. C'était pas possible du tout dans les 15 dernières années. C'est maintenant une peine qui fait partie de l'éventail des peines qui peut être imposée par un juge à l'issue là, suite à une déclaration de culpabilité ou une reconnaissance de culpabilité. Mais la gravité objective, la gravité subjective des agressions sexuelles, ça demeure. C5 n'a pas changé ça. Alors nous, comme procureurs, on va continuer de faire des représentations devant le tribunal pour qu'une peine qui reflète cette gravité-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au cours des dernières années et je pense qu'il faut aussi mettre la lumière là-dessus. Les perceptions, les peines, il y a des enseignements, il y a des décisions importantes de la Cour suprême, la refraison entre autres et tout ça. Alors il y a beaucoup, beaucoup de changements, il y a beaucoup d'arguments qui peuvent être présentés devant la Cour pour que des peines de détention soient imposées en matière de crimes de caractère sexuel.
Je comprends ce que vous dites, mais ça veut dire aussi que ce qui n'aurait pas été permis à l'époque, parce que c'était pas autorisé une peine à purger dans la collectivité, il y a des avocats qui vont maintenant pouvoir le plaider, même s'ils n'ont pas nécessairement gain de cause, ça peut devenir un argument.
Absolument. C'est une peine maintenant qui peut être plaidée par l'avocat d'un accusé. Et nous, bien, comme je vous le disais, on va continuer à s'opposer à l'emprisonnement dans la collectivité puis réclamer de l'incarcération. ferme lorsque les circonstances le justifient, particulièrement en matière de violence sexuelle. Alors, c'est un débat qui aura lieu devant le juge. Et la détermination de la peine, hein, c'est un exercice qui est quand même complexe. Donc, il y a plusieurs facteurs qui doivent être supposés par le juge. Toutes les circonstances, les faits de la cause, le profil de l'accusé, mais aussi un des principes de détermination de la peine, c'est la dénonciation puis la dissuasion. Alors, la peine doit refléter la gravité du crime. Alors, évidemment que tout ce qui concerne les violences sexuelles, ce sont des crimes graves. Alors, la peine doit refléter ça. Mais vous avez raison, c'est un débat qui pourra avoir lieu devant maintenant dans les dossiers de violences sexuelles.
OK. Là, je ne vous demanderai pas de commenter un dossier politique là, sur l'effet sur les victimes d'agressions sexuelles. Mais est-ce que, puis je vous demande pas de chiffres non plus, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins de femmes qui sont, puis là je comprends que c'est nouveau, là, mais qui sont portées à aller porter une plainte, déposer une plainte? Est-ce qu'il y a de plus en plus de causes où on demande l'emprisonnement dans la collectivité?
Moi, j'ai le goût d'envoyer le message aux personnes victimes de leur tendre la main, de continuer à leur tendre la main, sur quand, pour qu'il y ait une dénonciation. Parce que sans dénonciation policière et sans qu'on ait recours au système judiciaire, il n'y en aura pas de condamnation. Alors, il n'y en aura pas de conséquences pour les agresseurs. Alors, il y a beaucoup de chemin parcouru, notamment pour ce qui est de l'accompagnement des personnes victimes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'espère que ce message-là et que ces actions-là concrètes ne seront pas mises de côté là en raison de ce changement-là législatif. On va continuer de faire notre travail, on va continuer d'accompagner les personnes victimes et de tout faire notre pouvoir pour que des peines qui reflètent la gravité de ces crimes-là soient imposées en bout de ligne.
Puis est-ce que vous avez beaucoup de causes où c'est en jeu, là, la peine dans la collectivité?
Je serais pas en mesure de vous chiffrer ou de quantifier, mais c'est clair qu'on parle évidemment bon du changement législatif pour l'agression sexuelle. Il y a d'autres crimes, évidemment, d'autres infractions là qui sont visées par ce changement-là. Alors, c'est quelque chose que l'on entend, mais il y a des critères aussi qui viennent baliser ces peines-là d'emprisonnement dans la collectivité. Alors, le premier critère, il faut que le juge ait en tête une peine de moins de 2 ans d'emprisonnement. Il faut pas qu'il y ait de peine minimale qui soit déjà prévue au code criminel, mais il faut aussi que le profil et que la sécurité de la collectivité ne soit pas mise en péril par cette peine d'emprisonnement-là dans la collectivité. Alors, ultimement, c'est pas parce que c'est possible que ce sera nécessairement ça qui va être imposé par le juge.
OK, là, je vous prends de court, je vous dis tout de suite, là, mais il faut que je vous pose la question quand même. Là. Les retards, là, la saga entre les juges et le ministère de la Justice, on parlait, j'ai parlé à un de vos collègues il y a quelques semaines, de faire un tri dans les dossiers, garder les cas les plus graves pour en laisser tomber. Est-ce qu'on est toujours dans ça?
Évidemment que nous, c'est une mesure que je qualifierais un peu de proactive parce qu'il y a des journées de cours qui ont été mises de côté. Là, on a moins de journées de cours pour traiter nos dossiers. Ouais. Alors, manifestement, mathématiquement parlant, là, il y a un enjeu. Alors, nous, on a voulu donner les outils aux procureurs pour justement, si on en arrive là, dans un contexte particulier, dans un district particulier, si on doit faire une priorisation, bien entendu, c'est l'instruction qui a été donnée par Maître Michel, là, de favoriser les dossiers justement avec des personnes victimes, des personnes vulnérables. Mais tout ça pourra être contextualisé en fonction de la réalité de chaque district. Par exemple, la violence armée à Montréal et tout ça dans certains secteurs. Alors, il y aura quand même une certaine forme de flexibilité. La situation n'est pas la même partout au Québec non plus. Donc, on se prépare à ça pour justement là, pallier et mener à terme les poursuites qu'on intente.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Merci, Maître Audrey Roy-Cloutier, qui est procureur en chef adjoint donc à la direction des poursuites criminelles et pénales. Bon, de temps en temps, il y a des propositions qui arrivent pour essayer de prendre de front les différents enjeux du transport dans le Grand Montréal, le transport collectif, les congestions. Et on a vu, par exemple, des idées comme de taxer des espaces de stationnement dans les centres commerciaux, d'avoir une taxe au kilométrage. La technologie le permet de plus en plus. Et là, il y a un groupe qui arrive avec une proposition. C'est le Conseil régional de l'environnement de Montréal qui dit qu'il faut, et sur une période de temps, sur un horizon, être capable d'envisager de taxer les places de stationnement. Et ça veut dire quoi, ça, taxer les places de stationnement? Ben, à Montréal, il y a différents endroits où c'est déjà le cas. Mais il y a quand même des rues de Montréal où il n'y a pas de parcomètre, où il n'y a pas de vignette, où il n'y a rien à payer. Et dans le fond, vous allez voir, là, je pense que le plan est assez costaud. Déjà, j'ai vu les élus prendre un peu leur distance en disant on n'est pas contre, mais c'est pas non plus dans la liste des choses à faire bientôt. Blaise Rémillard est le responsable mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Monsieur Rémillard, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être d'abord nous expliquer là, les grandes lignes de votre proposition. Là, quand vous dites rente payante, là, grosso modo 450 ou 500 000 places de stationnement sur rue, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ben de ça, on exclut déjà d'une part les parcomètres. C'est une autre, toute autre logique qui a à faire avec le monde commercial puis qui fonctionne bien. Donc, nous, ce qu'on parle, c'est les stationnements réservés pour résidents avec les vignettes, puis les stationnements gratuits. Donc, ces espaces-là valent en moyenne 1 275 $ par année pour un total de environ 1 demi-milliard $ par année donné de la ville aux utilisateurs. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que dans une logique où on veut dégager de l'espace pour les autres modes de transport, dans une logique où on doit transformer la ville pour s'adapter au changement climatique, dans une logique où on veut offrir des meilleures qualités de vie, de milieu de vie puis de milieu d'affaires à Montréal, ben il faut repenser ça, faut tarifer plus directement l'utilisateur et puis réallouer ces fonds-là pour offrir plus d'options.
OK, vous dites il faut le faire graduellement, là, il y a l'horizon 2035 que vous regardez, par exemple.
Oui, 2035, c'est la fin de la vente de véhicules neufs à essence qui est planifiée par tous les paliers de gouvernement. Et puis, ce qu'on voit, c'est que la disponibilité des véhicules, le prix des véhicules, tout ça est très incertain. Et dans les projections là, des experts, c'est difficilement atteignable sans une réduction du nombre de voitures. Alors, nous, on dit on doit être prêt puis on doit contrôler les leviers qu'on contrôle. À Montréal, c'est le stationnement. Quand on parle du financement des autoroutes, c'est autre chose avec la taxe kilométrique, comme vous avez nommé. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est on doit graduellement se mettre dans un mode de résultat, se mettre dans un mode de comment on atteint nos cibles qui sont ambitieuses, qui sont cohérentes avec la science, mais comment on les atteint. Et puis là, ben nous, on dit il faut commencer à en parler tout de suite, puis être graduel, parce que ce ne sera pas en 2035 qu'il faudra se réveiller puis dire oh mon Dieu, on n'est pas prêt pour l'électrification. Non. Donc, c'est pour ça qu'on propose ces idées-là qui sont audacieuses, mais ça s'inscrit aussi dans un cadre là, à long terme. Aussi, on est en train de réfléchir sur le futur plan d'urbanisme et de mobilité à Montréal qui porte jusqu'à 2050. Alors encore, on n'est pas dans un horizon de court terme. Puis, évidemment, la tarification va main dans la main avec l'amélioration des autres options de mobilité, avec la construction de nouveaux immeubles à Montréal pour rapprocher les gens de leur travail, etc.
OK. Prenons un cas concret là pour que les gens saisissent l'image. Là, si on prend un quartier résidentiel de Montréal où il n'y a pas, disons encore, de vignettes, pas un quartier, mais une rue résidentielle où il n'y a pas de vignettes, vous dites aux citoyens de cette rue-là, si vous avez un véhicule à stationner, donc avoir tout le monde devrait avoir une vignette, puis ultimement, tout le monde devrait payer 1 275 $.
Oui, c'est ça, en moyenne. Puis c'est une question d'équité avec, par exemple, leurs voisins qui payent pour leur stationnement dans leur garage, par exemple. Ça a des coûts importants. Là. On parle de plus de 2 000 $ par année pour un stationnement sur un terrain privé. Cette personne-là le paye, l'assume, le déneige, est taxé même sur la valeur de son stationnement. Le voisin, 30% des ménages aussi n'ont pas de voiture à Montréal. Alors, ces personnes-là bénéficient peu de l'espace de stationnement sur rue. Et puis là, on se dit, faisons quelque chose de plus équitable. Chargeons directement les résidents. Améliorons leurs options pour ne peut-être pas avoir besoin d'auto ou de autant d'auto. Peut-être abandonner la deuxième voiture. Améliorer les services de d'autopartage, etc. Donner plus d'options. Et puis, de cette façon-là aussi, quand on paye, quand un service est tarifé, il y a aussi une attente de qualité qui vient avec ça. Alors là, peut-être on va être en mesure de réserver plus d'espace pour le stationnement sur rue par automobile et puis d'être capable donc que les gens qui ont besoin de se stationner ne tournent pas en rond. Peut-être qu'on aura plus de données pour faciliter la planification des déplacements puis trouver facilement où on va se stationner avant de partir, etc. Donc d'avoir des meilleurs services de stationnement aussi, ça fait partie.
Mais je donne de ça. OK, mais ouais. Je donne un exemple un peu concret. Je déménage à Montréal, j'ai une voiture. Dans votre plan, se pourrait-il qu'il n'y ait plus de place, qu'il n'y ait plus de vignettes, puis que vous me mettiez sur une liste d'attente?
Ça dépend où vous allez vous installer.
Oui,
présentement, il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'espace, là, donc il n'y aurait pas de problème. Mais effectivement, quand on parle de gros développement immobilier avec des centaines de logements, les résidents voient ça d'un très mauvais œil quand ça se pointe sur leur rue parce qu'ils disent on n'aura plus de stationnement sur rue, c'est fini. Alors nous, ce qu'on dit, c'est gérons-le. Communiquons une information qui est réaliste aux automobilistes. Alors, si vous voulez vous établir à Montréal avec une voiture, vous allez regarder ça de façon posée, puis voir dans tel secteur, je vais pouvoir me stationner sur rue ou pas. Donc, je vais devoir soit attendre sur une liste d'attente, soit me procurer un stationnement hors rue, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, ou sinon, profiter des autres modes comme un grand pourcentage de la population montréalaise.
J'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que, parce que je vois aller souvent des rapports comme ceux-là, c'est comme si vous arriviez dans le décor, puis là, vous dites aux gens, voici ce qu'on devrait faire, puis ça peut, puis là, j'entends mes auditeurs dans leur auto, dire, on est tombé sur la tête, voir si on va payer 1 200 $ par année stationné sur la rue, etc. Puis que finalement, ouais, le politicien se sert de vous en disant, écoutez, là, si on les écoute eux autres, là, ça va être effrayant, nous autres, ça va être un peu moins pire.
Nous, notre option, on demande pas mieux que de voir c'est quoi les plans de l'administration là pour atteindre leur cible de réduction de gaz à effet de serre. Nous, notre objectif, c'est vraiment de proposer des solutions qui sont gagnantes pour l'ensemble des Montréalais, puis pour les automobilistes aussi, parce que faut jamais oublier que le stationnement, là, même s'il est gratuit, on paye pour. Alors, que ce soit à travers nos factures d'épicerie, que ce soit à travers nos taxes, que ce soit à travers les biens et services, partout, on paye pour le stationnement lorsqu'il est gratuit. Alors, c'est une illusion, cette gratuité-là, puis nous, on pense que ça va libérer beaucoup d'énergie créative pour optimiser l'utilisation de notre espace urbain que de rendre ce prix-là un peu plus visible.
OK, parce que ce matin, en lisant les réactions, là, j'ai senti une politesse un peu tiède.
de vous parler de...
Ben, de la ville de Montréal, entre autres, en disant...
Ben,
ouais.
Tout à fait, là, eux, je les comprends. Puis ça, c'est pas non plus, c'est pas contre... c'est pas en opposition avec ce qu'on propose. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que ce soit quelque chose qui soit graduel, qui soit mesuré, qui soit basé sur une connaissance factuelle d'utilisation okay. du stationnement puis de sa valeur. Donc, évidemment, l'administration dit on n'en est pas là. Puis c'est vrai, si vous regardez dans le document, on a une ligne du temps. Puis c'est pas demain matin là qu'on monte les prix de façon inconsidérée partout à Montréal. L'idée, c'est vraiment d'offrir des options de mobilité intéressantes, des quartiers intéressants, plus d'habitation, etc., pour que vraiment il y ait une option, une alternative. Là.
Merci, M. Rémillard. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Blaise Rémillard est le responsable mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Très bien. Le Devoir nous dit ce matin qu'il y a des chercheurs qui travaillent pour faire en sorte que des gens qui sont atteints de diabète de type 2, il faut être précis, de type 2, puissent combattre la maladie, même inverser cette maladie, ne plus avoir besoin comme tel de médication par des changements, par exemple, d'habitude de vie, pardon. Et que tout ça est possible. Bizarrement, j'en ai parlé un peu plus tôt ce matin, puis j'ai des auditeurs qui m'ont écrit, notamment un monsieur qui m'a dit, écoutez, j'avais un diagnostic depuis 3 ans de diabète de type 2. J'ai viré ça bout pour bout. Régime méditerranéen, perte de poids, et maintenant, je n'ai plus besoin de médication. On va essayer de voir qui est concerné par ça, jusqu'à quel point c'est possible. Notre invité, Dr. Philippe L. Lallier, qui est le directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Dr. Lallier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Peut-être d'abord nous expliquer là le mécanisme qui permettrait donc de renverser la maladie.
Bien, c'est très important de comprendre effectivement les racines du problème. Alors, quand on évalue le diabète de type 2 et sa progression, parce que c'est un facteur de risque et une condition qui est en forte progression au cours des dernières décennies, c'est lié beaucoup à la consommation, à l'excès de consommation de calories, qui est un reflet de notre société actuellement où les calories sont extrêmement facilement disponibles et que les gens font face à une surexposition à l'accessibilité à ces calories-là. Je fais en sorte que du point de vue pratique, le diabète se développe au fur et à mesure et en parallèle avec le surpoids, malheureusement. Et puis cette situation-là fait en sorte que l'insuline qui est nécessaire pour maintenir un sucre normal dans le sang doit s'élever progressivement pour compenser. Et effectivement, au fur et à mesure que cette condition se développe, on finit par développer une condition où le sucre est élevé dans le sang malgré tout. Et là, on se retrouve avec une condition qui s'appelle le diabète de type 2. Il y a donc un continuum, par contre, préalable à ça, et ça se développe sur plusieurs années, voire décennies, avant de culminer en le diagnostic de diabète de type 2.
OK. Une fois que ce diabète a été diagnostiqué, de quelle façon, et là j'ai vu un peu quelques notes là dans l'article, mais de quelle façon, quels sont les changements qui permettent, j'allais dire, de renverser la maladie?
Oui. Alors, il y a plusieurs, effectivement, approches qui sont promues dans la littérature médicale. Il faut dire quand même que c'est une notion qui est relativement nouvelle au niveau de l'accessibilité à cette information-là et à ce concept-là sur le plan même des grandes lignes directrices sur le diabète. C'est relativement nouveau. Alors, il y a des choses maintenant qu'on est capable d'envisager qui vont varier de simplement une modulation de la quantité de calories qu'on appellerait vide, et au niveau de la modulation du moment dans la journée où les gens consomment les calories en question, en association avec, par exemple, de l'exercice physique, jusqu'à, par exemple, un remplacement complet de repas par des préparations qui sont ciblées à viser une réduction importante du nombre de calories dans une journée. Alors, il y a plusieurs éléments, dans le fond, plusieurs approches qui sont étudiées actuellement qui vise effectivement la même cible, par contre, qui serait la rémission du diabète.
OK. J'entends les auditeurs me poser la question, là. Qui sont les patients qui sont les plus aptes à prendre ce genre d'orientation, suivre un plan comme celui-là, puis obtenir un résultat?
Alors, évidemment, c'est une excellente question. Il semble assez clair avec les résultats qui sont actuellement disponibles que ce sont les gens qui ont un diabète 1 avancé. Donc, dans les débuts, je vous ai parlé tout à l'heure d'une évolution de cette condition-là sur plusieurs années, voire des décennies. Et quand on réussit à identifier le problème en amont d'une condition qui serait un peu dépassée, entre guillemets, Finalement, à ce moment-là, on les chances de pouvoir atteindre une rémission du diabète augmentent beaucoup. Par exemple, les gens que ça ferait moins de 6 ans qui ont le diabète, les gens qui ne sont pas obligés de prendre de l'insuline à ce, pour contrôler cette condition-là, les gens qui auraient un pré-diabète à ce moment-là, ce seraient des gens qui seraient particulièrement aptes à pouvoir viser, si on veut, et à qui on pourrait peut-être plus facilement proposer une approche visant la rémission du diabète que d'autres patients qui sont diabétiques de très longue date et qui auraient une condition plus avancée. Évidemment, je pense que l'autre concept qu'il faut comprendre là-dedans et que j'aimerais faire la promotion, c'est de dire que c'est quand même, bien que ça soit une cible, il y a une foule de bénéfices qu'on pourrait obtenir vraisemblablement en chemin vers la rémission du diabète. Donc, le processus d'incorporer de saines habitudes de vie dans un objectif de viser la rémission, même si on n'atteint pas comme tel les critères fixes et stricts de rémission du diabète qui font l'objet d'un consensus, il y a quand même vraisemblablement des possibilités d'améliorer sa situation de façon très, très importante en chemin vers la rémission, même si on finit par ne pas l'atteindre sur le plan des critères stricts. Mais donc, le chemin pour s'y rendre est donc très important.
OK. Docteur Lallier, vous avez dit, il y a comme une stratégie, changement d'habitude alimentaire, exercice physique. Est-ce que ça veut dire, là, concrètement, puis c'est parce que ce sont des questions des auditeurs, là, c'est le régime méditerranéen, c'est le régime keto, c'est de laisser tomber les charcuteries le plus possible, puis de bouger le plus possible?
Oui, nous avons une approche qui est basée sur une vision assez cardiologique de la situation. Je fais partie de l'Institut de cardiologie Montréal. Nous avons donc beaucoup de patients qui ont des problèmes cardiaques à la base et chez qui nous tentons de changer la trajectoire de la maladie. Alors, dans ce contexte-là, nous avons incorporé dans notre stratégie du centre EPIC une stratégie qui vise à maintenir ce qu'on connaît déjà sur l'objectif de réduire les maladies cardiovasculaires qui sont la complication la plus fréquente du diabète. Donc, on fait un lien ici entre les deux conditions. Et notre approche, évidemment, pour la partie diabète, de l'approche à la prévention des maladies cardiovasculaires, passe par les concepts extrêmement bien connus en prévention cardiovasculaire, c'est-à-dire la diète méditerranéenne. Nous n'avons donc pas visé ce que les gens reconnaissent comme la diète keto avec des mauvais gras. Nous avons inclus dans la partie, si jamais on décidait de se rendre là, c'est une approche très personnalisée et c'est pas comme ça pour tout le monde. Si jamais on se rendait à un endroit où est-ce qu'on parle d'alimentation restreinte un peu dans le temps, quand on parle de diète un peu moins riche en glucides, on parle quand même d'utiliser une alimentation qui contiendrait des bons gras sur le plan de la prévention cardiovasculaire, par exemple. Ou effectivement, une approche qui inclurait la diète méditerranéenne, modifiée en fonction des besoins de chacun, mais finalement basée sur les concepts d'alimentation méditerranéenne, qui sont les concepts les plus validés en prévention cardiovasculaire.
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Lallier. Très apprécié.
C'est un plaisir.
Au revoir, Dr. Philippe L. Lallier, qui est le directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.